L'actu philo, Claire Bressolette.
Bonjour Jonathan, bonjour chers auditeurs. De quoi parler sinon des fastes de l'enterrement royal d'Elisabeth II? Comment peuvent-ils ainsi nous sembler désuets et en même temps nous fasciner? La longévité du règne, la personnalité d'Elisabeth seront invoquées, mais c'est à Victor Hugo que revient la bonne réponse dans L'homme qui rit. Victor Hugo, mort en 85 pour parler d'Elisabeth II? Mort au siècle dernier? Oui, et d'une manière intemporelle à plusieurs titres. D'abord par le contraste qu'il souligne dans le caractère. Décrivant la reine Anne, fille de Jacques II, il insiste d'abord sur l'antithèse constitutive de la famille royale, antithèse qui semble bien être la marque des grandes reines anglaises. Jacques II était ingénu et féroce. Elle était brutale. Et en même temps, au fond, elle était douce. Contradiction qui n'était qu'apparente. Une colère la métamorphosait. Chauffez le sucre, il bouillonnera.
Alors c'est simplement un style propre à Hugo de grossir les contrastes comme ça.
Possible. Mais il me semble que la deuxième raison qui rend l'analyse hugolienne atemporelle correspond à ce que nous venons de vivre. Voici, pour la popularité de la reine Anne. Anne était populaire. L'Angleterre aime les femmes régnantes. Pourquoi ? La France les exclut. C'est déjà une raison. Peut-être même n'y en a-t-il point d'autre. Pour les historiens anglais, Elisabeth, c'est la grandeur. Anne, c'est la bonté. Comme on voudra, soit. Mais rien de délicat dans ces règnes féminins. Les lignes sont lourdes. C'est de la grosse grandeur et de la grosse bonté. Quant à leur vertu immaculée, l'Angleterre y tient. Elisabeth est une vierge tempérée par Essex et Anne est une épouse compliquée de Bolingbroke.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'Elisabeth II ?
Ben écoutez, je dirais une mère abbesse en attelage inconfortable avec son ministre.
Ah.
Mais derrière cette démarcation quasi systématique de l'Angleterre vis-à-vis de la France, Hugo va pointer le désir de rappeler au monde entier qu'un souverain est le tenant-lieu de Dieu sur terre, que les fastes et le protocole ne sont là que pour calquer les marques du sacré qui entoure les autels et remplit les temples. Ici, c'est bien au contraire l'imitation de la France qui sert de fondement, notamment l'imitation du règne de Louis XIV, le roi soleil. À un certain point de vue, le règne d'Anne semble une réverbération du règne de Louis XIV. Anne, un moment parallèle à ce roi dans cette rencontre qu'on appelle l'histoire, a avec lui une vague ressemblance de reflets. Comme lui, elle joue au grand règne. Elle a ses monuments, ses arts, ses victoires, ses capitaines, ses gens de lettres, sa cassette pensionnant les renommées, sa galerie de chefs-d'œuvre latéral à sa majesté. Sa cour, à elle aussi, ses cortèges et a un aspect triomphal, un ordre et une marche. C'est une réduction en petit de tous les grands hommes de Versailles. Ah, vous allez me dire, quel style savoureux.
Mais c'est que de la littérature, effectivement.
Ah, je vous connais bien, Jonathan. La chute me semble relever de la profondeur visionnaire qui nous permet d'apprécier le rôle unique de la reine d'Angleterre dans le concert des nations. L'aura du féminin est telle qu'il permettrait de qualifier le XXe siècle comme le siècle de la reine Elisabeth, à l'instar du siècle de Louis XIV.
Mais il faut accepter de dépasser ce chauvinisme, Claire.
Ah, je vous cite Hugo quand même. Pourtant, tout est féminin. Et le père tellier d'Anne s'appelait Sarah Jennings. Bien qu'à cette époque, l'Angleterre querelle et batte la France, elle l'imite et elle s'en éclaire. Et ce qui est sur la façade de l'Angleterre, c'est de la lumière française. C'est dommage que le règne d'Anne n'ait duré que 12 ans, sans quoi les Anglais ne se feraient pas beaucoup prier pour dire le siècle d'Anne, comme nous disons le siècle de Louis XIV. Mais seul l'avenir dira si on peut parler du siècle d'Elisabeth II pour le XXe siècle.